à la clarté d'un réverbère, ou par l'ouverture d'une boutique, je saisis un trait des figures qui passent devant moi, et cela sert mieux mon dessin que de les contempler en pleine lumière. Pour dire vrai, la nuit est plus favorable à cet égard que le jour, qui, trop fréquemment, détruit, sans souci ni cérémonie, un château bâti en l'air.
L'eau, ce jour-là, était froide et grise, très grise et froide.
Mas morava. Pues morada.
She said that I gotta make a meatloaf. I said we'd bring Jell-O salad, but Kitty said meatloaf. So, fun.
What's that, huh?
I said it's Gordo's birthday tonight. We're supposed to be at your brother's at 4 with meatloaf.
Sounds different today, don't you think? Like angry?
I'm washing towels. It's a towel sound. Kitty said they just got one of those fancy European all-in-ones. Says it washes and dries. One machine. Can you believe that?
Right, that's at the back of Benny.
He can afford it, your brother. Kitty said he just got a big promotion after only working there a year. He said they also got one of those fancy new surround sound systems. Guess I married the wrong Nygaard.
Oh.
That's what I said. We had our good laugh.
It's just slow now at the shop.
Oh, hon, that's what you always say, slow.
Well, better get back to it.
You make your own wins. That's what Kitty said Chaz told her. Salesmen make their own wins. You gotta try harder, hon. Smile for Pete's sake. Maybe wear a nicer tie.
You gave me this tie.
Well, if you were a better salesman, I'd have bought you a nicer tie. At least take a look. Keep thinking maybe it's the settings. Kitty says Chaz fixes things around the house all the time. Says he put the toaster apart over the weekend. Now it's good as new. Browns to beat the band.
L'aube, ce jour-là, était froide et grise. Très grise et très froide. Une fois arrivé au sommet, l'homme fit une pause pour reprendre haleine. Puis, machinalement, il regarda sa montre. Elle marquait 9h. Il n'y avait pas de soleil, pas un soupçon de soleil, quoiqu'aucun nuage ne fût au ciel. Le firmament était pur, et cependant, se retournant, l'homme jeta un regard en arrière, vers la longue piste qu'il venait de parcourir. Vers le nord et vers le sud, aussi loin que l'œil pouvait porter, la piste qu'il suivait était à peine tracée. Il y avait un mois que personne n'avait remonté ni descendu le silencieux vallon. Il consulta sa montre. 10h. Mais ni la ligne mystérieuse de l'horizon lointain, ni l'absence du soleil, ni le froid terrible qui sévissait, ni toute cette ambiance de fantastique désolation ne troublait l'homme au-delà de ce qu'il était nécessaire. Au-delà de ce qu'il était nécessaire. Il était un nouveau venu, mais nulle imagination superflue ne venait jeter la peur dans son cerveau. L'homme s'arrêta de marcher pendant un instant et observa la configuration de la vallée. Il posa la main en y songeant sur une grosse bosse qui faisait saillie sous son vêtement. Là, sous la chemise, à même sa peau nue. Il se sourit à lui-même. Il déboutonna sa veste et sa chemise pour sortir son déjeuner. À même sa peau nue était un paquet de biscuits enveloppés dans un mouchoir. Il se réjouissait d'aller à pied, sans autre charge que son déjeuner dans sa chemise.
C'est beau hier dans la matinée, mais l'après-midi, tout s'est gâté. J'ai une cabine qui m'a paru d'abord atrocement petite, mais où je suis seule et où je pourrais m'arranger tout doucement. La couchette est très bonne, mais j'ai eu une heureuse inspiration d'emporter mon oreiller.
Il leva le biscuit vers sa bouche, afin de manger.
On met le couvert pour 7h. À 6h30, presque tout le monde était malade. En effet, tout s'est déchaîné peu après. À 7h, comme on allait dîner, cela n'a été que l'orage et une pluie torrentielle. Mais ensuite, tout cela n'a été prêt que vers 8h. personne n'était plus là. J'ai essayé de manger, puis j'ai dû descendre me coucher et j'ai été malade un quart d'heure. Et à 10 heures, on venait me visser à fond mon hublot. Il y en a eu pour jusqu'à 4 heures du matin. Puis je me suis très bien endormie. Mais ensuite...
Le ciel était toujours pur et sans nuages.
Mais ensuite...
La queue pendante entre les jambes reprit sa place. Pouvait être cause de graves et dangereux désagréments. En son cerveau rudimentaire, une crainte vague naissait. À midi et demi précis, l'homme arrivait à la première fourche de la rivière. Il était satisfait de la vitesse à laquelle il avait marché. S'il la maintenait, il aurait certainement, à 6 heures, rejoint les camarades.
Ce matin, à 6h30, je me suis levée. Le temps est très beau, un peu frais. Ici, le ciel et la mer changent de couleur. Le ciel est turquoise pâle, est allongé au pied de montagnes vertes avec des maisons peintes à toits plats, cubiques, ou en blocs allongés. Dans une large bande d'indigo profond, presque pourpre-violet. Et au-dessus de cette pourpre, une montagne un peu embrumée se découpait sur le ciel bleu pâle. La cime barrée d'un flocon blanc. La cime barrée d'un flocon blanc. Avec des rayures étoilées de neige.
L'homme allait toujours, d'un pas régulier. Il ne pensait à rien. Sinon au déjeuner dont l'instant approchait et qu'à 6 heures du soir il aurait retrouvé ses camarades. La nuit serait déjà tombée. La nuit serait déjà tombée.
Mais ensuite...
Un jour, qu'il avait été chercher du bois dans la forêt, un vieil homme qu'il n'avait encore jamais vu s'approcha de lui et lui dit
« Ça change complètement la physionomie. Le menhir, à l'âge de la pierre, qu'est-ce qu'on a érigé à l'âge du fer au XXe siècle ? Eh bien, on a érigé la tour Eiffel. C'est la même idée, mais pas du tout la même nature de matière. Et si on veut regarder à aujourd'hui, ben je dirais que maintenant, on est en plein dans l'âge du silicium. » l'âge du silicium, avec derrière toutes les révolutions technologiques que vous connaissez. Bien sûr, toute l'électronique, l'informatique, les nanomatériaux, les nanotechnologies et toute la révolution qu'on a connue dans le domaine de l'audiovisuel, de la visualisation, de la mémorisation des ordinateurs, etc. Mais là encore, derrière cette histoire de l'âge du silicium se cache la maîtrise de températures encore plus élevées. Le minerai pour le silicium, c'est évidemment la silice.
Avec, derrière, un grand pommier.
Imagine-toi qu'au temps jadis, l'éléphant, ô mieux aimé, n'avait pas de trompe. Il n'avait qu'un nid noir au courteau gros comme une botte, qu'il pouvait tortiller de droite et de gauche, mais pas ramasser des choses avec.
Tu me promets.
Il demanda à sa grande tante l'autruche pourquoi les plumes de sa queue poussaient comme ça. Et sa grande tante l'autruche le cogna de sa dure, dure patte. Il demanda à son oncle poilu le babouin pourquoi les melons avaient ce goût-là, et son oncle poilu le babouin le cogna du revers de sa main poilue.
Vous allez ramasser ce qu'on appelle du plancton marin, c'est-à-dire tout un tas de micro-organismes qui forment le plancton.
Si tu me promets.
Je vais maintenant consacrer la suite de l'exposé en focalisant sur juste un type de matériau qui est la silice. La silice, les verres de silice et des matériaux.
En échange,
des questions, tout ce qu'il voyait.
Un beau matin, au milieu de la précession des équinoxes, cet insatiable enfant d'éléphant fit une belle question qu'il n'avait jamais faite encore. Il demanda. Qu'est-ce que le crocodile mange pour dîner ? Cet insatiable enfant d'éléphant prit 100 livres de bananes, de la petite espèce courtée rouge, 100 livres de canne à sucre de la longue espèce violette et 17 melons de l'espèce verte craquelée.
En échange,
si tu me promets,
de l'espèce verte craquelée et dit à tous les siens. N'empêche que je veux savoir ce que le crocodile a pour dîner. Puis il s'en alla, un peu congestionné mais pas étonné du tout, tout en mangeant des melons dont il semait l'écorce parce qu'il ne pouvait pas la ramasser. Au revoir.
Ce qu'il sentait.
En criminologie, quelque chose qui est très utilisé. Vous trouvez un cadavre qui est noyé dans un étang. Et bien, si vous regardez la population, l'eau qui est à l'intérieur des poumons, qui a été absorbée donc au moment.
Ce qu'il entendait.
La victime se noyait. Vous pouvez regarder quelle est la population de diatomées et les caractéristiques de l'étang dans lequel la personne s'est noyée. Donc on peut définir si elle a été noyée dans cet étang-là ou à 10 km de là.
Tout ce qu'il voyait. Éprouvait, sentait et touchait.
Bien. Ce que je voudrais vous montrer avant d'aller plus loin, c'est que les diatomées, ce sont des véritables nanomatériaux vivants. Alors pourquoi c'est un nanomatériau vivant? Pas vivant, parce qu'il est vivant, bien évidemment, il va se diviser, se reproduire, etc., se développer. Et ce qui est intéressant, j'avais souligné que c'était très poreux pour permettre les milieux, les échanges avec le milieu extérieur, et c'est que cette porosité n'est pas quelconque.
Je ne sais pas comment cela s'est produit. Personne n'a rien apporté. Tout d'un coup, toutes les caisses et les armoires sont pleines.
Ça, c'est très intéressant. Parce que ça veut dire qu'il y a une surface extrêmement importante. Et donc, une interface avec l'atmosphère, très importante. Il va pénétrer à l'intérieur de ces carapaces.
Avec, derrière, un grand pommier.
Photonique, et la conséquence c'est que la lumière, les photons,
si tu me promets,
vont se propager dans ces cristal photonique comme les électrons dans un cristal semi-conducteur. Donc il va y avoir des bandes interdites, il va y avoir la propagation de la lumière va ne pas être quelconque.
En échange. Échange.
Dehors.